C'est toujours le mag sur Maximum jusqu'à midi. Comme promis, on entame notre séquence hebdomadaire intitulée « C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça ». Christian Quinault et Guy Van den Norgate nous présentent chaque semaine des bonnes nouvelles dans le monde des entreprises de la région. Christian, je te laisse nous présenter vos invités d'aujourd'hui.
On y est, c'est reparti. Guy, je suis très heureux de te retrouver. C'est la 25e. 25e, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Bonjour Guy.
Bonjour Christian.
Alors c'est la bonne chose parce que vous pensez bien que vous nous avez manqué pendant 2 mois. Alors c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça évidemment au niveau du concept, on le rappelle quand même, c'est une émission qui est sur le positivisme et dirigée vers les entreprises, les indépendants, les chefs d'entreprise, enfin bref, quels qu'ils soient, petites, moyennes et grandes tailles. C'est des réflexions que nous allons avoir tout au long de cette séquence. Cette fois-ci, pour la 25e capsule, on a une idée quelque peu sympa d'avoir autour de nous, autour de la table, mon cher Guy, comme tu l'as constaté, nous avons
oui.
que... des femmes. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Nous avons la chance d'accueillir, bonjour, madame Sylvia Martelor.
Bonjour.
Qui est la gérante de l'Espérel Max 25. Nous avons Sandrine Néry, bonjour.
Bonjour Christian.
Sandrine Néry, famille Néry, c'est Renaud Néry, Renaud Néry Group. Et puis nous avons Evelyne Jadin, bonjour.
Bonjour.
Qui est déjà venu dans les précédentes séquences pour donner quelques, qui est juriste pour Securex, pour venir donner quelques précisions sur des nouveautés, les conseils qu'on pourrait vous donner. Voilà. On va commencer peut-être par Madame Martelor.
Oui, et donc par Max 25. Donc peut-être quelques mots déjà, qu'est-ce que Max 25 ?
Donc le concept de Max 25, c'est une réunion de maximum 25 patrons d'entreprise, une fois par mois, principalement sur le temps de midi, dans une entreprise différente. Donc cette entreprise est présentée et donc ça se passe... en Wallonie principalement, Bruxelles et Luxembourg. Donc on a notre logo qui est le symbole d'unité avec le drapeau belge. Mais il faut savoir que les réunions sont principalement donc, au travers de toute la Wallonie, que ce soit Liège, Bruxelles, Charleroi, on va jusque Tournai. Mais bon, principalement la partie francophone, puisque au niveau néerlandais, on n'est pas encore tout à fait au point.
Et c'est tout secteur, il n'y a pas de secteur particulier
Tous les secteurs sont confondus, mais il faut savoir que lors de la réunion, il n'y a jamais de concurrence parmi les participants. Donc même si on a plus de 500 entreprises qui nous suivent, chaque réunion, forcément, les participants sont différents et il n'y a pas donc de concurrence lors de cette réunion.
Mais donc c'est Max 25 et ça existe depuis combien d'années maintenant ?
Donc Max 25 va fêter ses 10 ans en janvier.
Et donc, 2019
2019, d'accord. Oui, donc dans quelques mois. Et donc justement, à cette occasion, on a changé un petit peu l'habitude de Max 25, c'est-à-dire qu'habituellement, on fait une réunion fin d'année pour la fin de l'année, comme tout le monde le fait, pour avoir le résumé de l'année et la présentation de l'année suivante. Et cette année, on a changé un petit peu le concept. Il n'y aura pas de réunion de fin d'année, mais en fait, on va fêter les 10 ans en janvier. Donc la réunion de fin d'année se fera début d'année, on présentera l'année 2019 et en même temps on fêtera les 10 ans.
Oui, alors il y a le concept de la présentation d'entreprise, mais il n'y a pas que ça. J'ai vu en 10 ans qu'il y avait beaucoup d'événements qui avaient été organisés par Max 25 en Belgique, mais même à l'étranger. Alors.
Oui, donc il y a évidemment les réunions mensuelles, mais il y a également, par exemple, au mois de septembre, à la mi-septembre, on organise le Trophy. Donc on met une quinzaine de patrons d'entreprises en difficulté sur un sujet commercial donc à l'étranger. Donc on a fait par exemple Moscou, New York, Ouarzazate. L'année dernière, c'était Porto. La semaine prochaine, on part en Italie, au lac de Garde, à Sirmione. L'année prochaine, on ne dira pas encore où c'est, ce sera présenté au mois de janvier, même si on a déjà tout prévu. Et alors, on a également aussi ce qu'on appelle les samedis du max. Donc, c'est-à-dire qu'on prend l'avion le samedi matin, on va à une destination en général ensoleillée, ou en tout cas pour être sûr de ne pas avoir de la pluie. On va manger au restaurant le midi et fin de journée, on reprend l'avion, on revient. Donc, on avait fait principalement Cannes. Parce que les horaires d'avion se combinaient bien, donc on pouvait partir à 9h du matin et rentrer à 20h. Et on avait encore le dimanche donc, pour la famille ou autre activité.
Oui, donc j'ai vu, c'est bien né en province de Liège, mais ça ne concerne pas que la province de Liège.
Le côté francophone, donc principalement le Luxembourg, Bruxelles, et c'est vraiment axé au niveau géographique sur cette zone-là. Et on espère pouvoir, dans le futur, s'étendre un petit peu sur la Flandre, même si on a déjà quelques participants néerlandophones, mais bilingues, qui ont participé à des réunions de Max 25 pour pouvoir justement avoir des échanges commerciaux plus importants.
Eh ben, on attend impatiemment de fêter les 10 ans en janvier prochain.
Voilà. On a aussi pour le moment... des réunions qui sont plus à thème aussi. Donc principalement sur le secteur de la construction, où là, les personnes qui sont autour de la table sont vraiment axées sur le secteur de la construction ou sur le secteur de l'automobile. Des thèmes vraiment bien précis pour avoir des acteurs qui rentrent en relation avec un thème bien précis.
On peut retrouver toutes les informations sur le site internet
www.max25.be et également la page Facebook, en tout cas en ce qui concerne le calendrier et l'agenda des événements.
Eh bien, parfait. Merci
parfait,
beaucoup.
Parfait, c'est la pause musicale maintenant. Je vous retrouve avec nos invités de ce dimanche. À tout à l'heure. Deuxième séquence, deuxième partie de notre capsule. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. J'ai une petite question assez interpellante. Savez-vous dans quelle ville en Belgique les femmes se sentent les plus seules? Ah, et bien en fait c'est à Bruges, parce que si vous êtes un homme et cherchez l'âme sœur, rendez-vous à Bruges, de toutes les grandes cités, tout du moins en Flandre. C'est là que la différence entre le nombre et le de femmes sont les plus importantes. Donc la ville compte en effet 61 713 femmes pour 57 000 hommes. À mon avis, il y a peut-être une opportunité pour ceux qui nous écoutent de se rendre sur Bruges. Une belle ville, ceci dit. Bonjour, rebonjour. Evelyne Jardin, qui est avec nous pour Securex. Quoi de neuf chez Securex en fait?
Bonjour Christian, je vais vous parler ce matin d'un de nos exemples dans le rayon de l'assistance en matière RH. Et n'y voyez pas de mauvais jeu de mots, parce que je vais vous parler un peu du secteur de la distribution. Il y a pas mal de changements dans le secteur de la distribution, notamment en matière de flexibilité, et ce n'est pas toujours chose aisée de s'y retrouver dans cette jungle de dispositions légales. Pourtant, ça bouge et ça bouge dans le bon sens. Securex est là pour vous accompagner dans la gestion, mais surtout de la gestion de la rémunération de votre personnel jusqu'aux assurances sociales. Vous avez besoin de faire appel à un employé flexible? Pas de souci, pourquoi ne pas le faire via des flexi-jobbers dans ce cas? Trop compliqué, vous diriez-vous? Non, du tout. Securex et aussi les différents conseillers juridiques, comme moi par exemple, se cherchent de l'aspect légal et vous fournissent tous les outils nécessaires. On s'occupe de tout. On vous offre donc des conseils socio-juridiques en langage clair et spécifique à votre secteur, qui est le secteur de la distribution, mais nous appliquons aussi la législation au dossier bien spécifique de notre clientèle. Donc, si vous entendez notamment développer une activité d'e-commerce, c'est-à-dire par exemple la vente en ligne, vous aurez besoin de beaucoup plus de flexibilité au niveau du temps de travail, mais aussi de pouvoir travailler davantage la nuit, forcément, pour préparer les différents colis. Dans ce cas-là, on peut vous conseiller en matière d'e-commerce, mais on peut surtout aussi vous aider à organiser votre temps de travail et organiser toute la gestion autour de votre personnel. On anticipe les besoins, en tout cas c'est ce qu'on s'efforce à faire, et on vous propose aussi des petites vidéos, des formations, des webinaires qui peuvent dans un tout autre registre en matière de retail porter aussi sur la sécurité alimentaire, où on vous apprendra tout en matière de contamination des produits alimentaires et sur la façon de l'éviter. Bref, vous l'aurez compris, Securex est là, on s'occupe de tout, de A à Z. Nous sommes le partenaire fort en matière de gestion et administration du personnel.
Chardine Ridry, interpellant ça, le travail le soir, la nuit, ça...
Ah oui, le flexi-jobber m'interpelle particulièrement, notamment sur les profils. Je suis très curieuse du profil de candidat que vous pouvez proposer. Et je l'ai compris, je pense, la flexibilité aussi sur le temps de travail et les horaires forcément...
Le nombre d'employés chez Neri, on tourne, grosso modo.
On est à 88 personnes, équivalent temps plein.
Répartis sur les trois sites?
Sur quatre sites, oui.
Quatre maintenant, d'accord. Oui. Ok, donc là, il y a des choses à faire apparemment. Voilà, c'est une bonne chose. On reviendra avec Evelyne tout à l'heure. Sandrine Neri, bonjour. Sandrine, Renault, évidemment. Renault, c'est une marque connue, avec une gamme très très étendue. Vous ramassez, comme d'autres généralistes, de plein fouet la modification, tout du moins l'enthousiasme du diesel est en chute libre. On part sur l'essence. Comment est-ce qu'on s'adapte en fait à cette nouvelle réglementation, tout du moins sortie dernièrement?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse tendance du marché et au niveau national, c'est historique. C'est la première fois que les ventes d'essence dépassent les ventes de diesel, même si le parc au national est toujours majoritairement diesel. Mais on voit clairement un effet, effectivement, du choix des consommateurs vers les motorisations essence. Comment on s'adapte? On essaye surtout de bien conseiller nos clients, parce que parfois la médiatisation de certaines dispositions comme l'interdiction du diesel dans certaines villes ou des changements de normes de dépollution de moteurs qui impacteraient l'aspect taxe et fiscalité des véhicules, parfois pousse le consommateur à prendre des décisions qui ne sont pas toujours en adéquation avec son mode d'utilisation quelque part du véhicule. Donc on invite nos clients à bien réfléchir sur les parcours qu'il fait, le nombre de kilomètres qu'il fait, pour bien conseiller, puisque c'est vrai que nos motorisations essence et diesel perdureront encore au minimum 10 ans, mais à côté de cela, débarquent déjà de nouvelles alternatives, comme l'hybride, le plug-in hybride, l'électrique, et donc c'est vrai qu'on est parfois un peu perdu par rapport à toutes ces solutions, et c'est là notre plus-value de pouvoir conseiller, car dans la gamme Renault, c'est vrai que nous avons démarré le véhicule électrique déjà il y a 8 ans, donc voilà, on peut parler de ces sujets et conseiller au mieux nos clients.
Il a fallu s'adapter au niveau de ces stocks, enfin grosso modo, je ne pense pas qu'encore le concessionnaire ait des véhicules, vraiment beaucoup de véhicules en stock, mais une stratégie commerciale, le vent quand même a tourné. Alors on parlait de véhicules électriques, premier véhicule électrique Renault 8 ans, c'était avec quel type de véhicule ça?
Alors il y a les véhicules thermiques comme la Fluence et le Kangoo qui ont été adaptés en électrique. Et alors la sortie de la Zoé, qui est le vrai premier véhicule développé pour l'électrique.
Là, ça remonte il y a 4-5 ans, en fait.
Oui.
Et Renault était prêt, enfin le marché était prêt quand on a sorti Zoé?
Le marché n'était pas encore prêt. Par contre, Renault a été assez précurseur. Et quand on sait aujourd'hui que l'ambition d'ici 2022, c'est 80% d'électrification de nos moteurs, c'est...
Alors là, moi, j'ai un gros doute. Je tourne à Given Under Gate. On parle justement d'un marché qui devrait être positionné vers le haut au niveau de l'électrique, au point même qu'on dirait qu'un véhicule électrique coûtera peut-être bientôt moins cher qu'un essence. Mais le service là derrière, enfin, nous, au niveau fourniture énergie, on n'est absolument pas prêt. Je ne vois pas comment on pourrait brancher 20 000 véhicules directement sur la prise de 120. Il y a quelque chose qui ne va pas bien s'installer là, de ce côté-là.
C'est un peu le problème, c'est que le véhicule électrique n'est pas polluant du tout. Ça, pour les émissions, c'est parfait. En plein centre-ville, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait de l'électricité pour charger les batteries. Et d'où vient l'électricité? Alors, chez nous, à peu près à 50%, ça reste du nucléaire. Mais en Allemagne, par exemple...
Une catastrophe.
Là, ça, c'est une catastrophe. Quelque part, ils vont cesser le nucléaire, logiquement. Et ils sont à 40% de charbon, et notamment du lignite, qui est extrêmement polluant. Alors, ils essayent de faire tourner les éoliennes, mais avec des fortunes diverses, parce que parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Alors, il y a le gaz, qui va arriver probablement de Russie pour compenser, mais on n'en est pas encore là. Et ça, c'est un des très gros problèmes par rapport à l'électrique. Mais on n'est pas encore aujourd'hui, dans un parc automobile où l'électrique est très, très représentée. Si ce n'est qu'il y a quand même deux choses, je pense, c'est qu'on parle beaucoup de Tesla, mais on oublie d'une part les constructeurs classiques, tous les grands constructeurs, dont Renault, qui, eux, sont des constructeurs automobiles et savent faire des automobiles, ce qui est moins le cas de Tesla. Et d'autre part, il y a aussi les Chinois qui, eux, vont commencer à construire...
Justement, on parle d'un investissement quand même colossal. Et j'en suis très heureux. Sur le site de chez Caterpillar, on parle d'un apport de 150 millions d'euros. Bravo, on va aller construire des véhicules électriques à la masse. Je vois que Tesla, tu en parlais tout à l'heure, ils essaient de rattraper le tir. Alors, remarquez, Tesla faisait du camping, où j'ai lu un article quelque part, et j'étais me construire un chapiteau de 275 mètres de long à côté de l'usine pour sortir la voiture. Allez, je ne vais pas dire que c'est du presque n'importe quoi, mais on n'y est pas là, quelque chose qui ne va pas.
Non, on n'y est pas encore, clairement. Et je pense que... Mais ça bouge. Et je pense qu'il y a un marché, je crois, on voit des petits fabricants, il y a un marché pour des utilisations de voitures spécifiquement en ville. Je pense par exemple au service des gens qui vont approvisionner les pharmacies, par exemple, qui, elles, restent dans la ville et ont peu de kilomètres, et alors il n'y a aucun problème.
Pause musicale et on continue sur le débat sur le secteur automobile. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà sa troisième séquence. On a une belle réflexion tout à l'heure avec Sandrine Néry au niveau des initiatives des entreprises. Pourquoi ne pas arriver à du 100% made in maison, en fait?
Oui, mais on voit aujourd'hui que ce sont les initiatives viennent de là, en fait, des entreprises, des PME qui décident d'investir dans des installations de production d'électricité afin d'être autonomes et produire de l'énergie verte et d'y joindre les solutions de véhicules électriques. Ainsi, ils proposent à leurs utilisateurs des solutions de mobilité propres. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le réseau d'infrastructures routières ne permet pas encore un chargement, n'est pas encore suffisamment représenté pour permettre une charge des véhicules électriques de manière à être autonome, je vais dire, sur la route. Mais ce type d'initiative se voit de plus en plus.
Oui, c'est une piste pour les entreprises qui ont une flotte captive et qui, en général, sont actives sur un périmètre assez proche. Donc là, ça peut être très intéressant. Et il y a beaucoup d'entreprises dans différents secteurs qui sont actives simplement dans leur région ou dans la ville, quoi.
Sur le plan psychologique, l'hybride reste encore la solution intermédiaire quelque part.
Pour ceux qui sont encore frileux sur le fait de passer effectivement sur des autonomies qui sont un peu restreintes, je pense que le véhicule électrique est une belle alternative pour un second véhicule dans un ménage, ou alors des solutions plug-in hybrides qui permettent quand même de faire 30 à 50 km sur le moteur électrique et ensuite d'avoir toujours cette réserve sur du moteur thermique classique, donc qui fait qu'on peut facilement augmenter les autonomies.
Un groupe comme Neri, dont je pense que le papa avait fait de la course de côte moto dans les années 60, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Alors il a dû voir une ascension, parce qu'il est toujours avec toi dans le garage. C'est un homme qui a dû voir une évolution technologique incroyable. 50 ans dans l'automobile, ça doit être terrible, ça.
Oui, tout à fait.
Comment il réagit, lui ?
Il faut savoir que c'est un vrai passionné autodidacte, donc il préparait ses moteurs lui-même. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la technologie a fortement évolué. Il faut pas aujourd'hui l'aspect électronique a pris énormément de place, donc forcément pour lui c'est un gros bouleversement.
Il doit être déçu quand on ouvre le capot.
Oui, même s'il y a toujours l'aspect mécanique et oui. Il a toujours l'oreille très fine pour détecter, diagnostiquer des éléments qui portent sur la mécanique des véhicules encore d'aujourd'hui.
C'est bien, on repasse la parole à Evelyne Jada, sécuriste, juriste. Quelques informations à nous donner sous le plateau pour terminer cette séquence.
Eh bien Christian, oui, quand on entend tout ça, on peut se poser la question de savoir si un véhicule de société, un classique, est toujours intéressant ou pas. Et là, j'aimerais bien vous parler du fait qu'il y a une nouveauté dans ce registre-là, à savoir que depuis quelques mois est apparue l'allocation de mobilité. Qui veut dire qu'un travailleur peut décider de rendre son véhicule de société et de l'échanger contre une allocation de mobilité, c'est-à-dire contre du net, ou du quasi-net en tout cas, au lieu de utiliser son véhicule de société. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant, oui ou non? Chaque travailleur devra faire le choix pour lui, et je pense que dans les cités plutôt rurales, ça peut... Ce ne sera pas vraiment intéressant, mais dans des régions comme la région de Bruxelles ou la région liégeoise, où il y a une bonne infrastructure au niveau des transports en commun, ça peut être vraiment très très intéressant de faire l'exercice et de rendre son véhicule.
Je repasse la parole à Sandrine, véhicule de société. Bruno, ça cartonne ça ?
Oui, ça fonctionne bien.
Hein, ça fonctionne bien parce qu'il y a un véhicule quand même, il y a une gamme très élargie en fait.
Effectivement, la gamme est large, du petit véhicule à la familiale au véhicule utilitaire pour lequel Renault est premier sur le marché depuis quelques années maintenant. Donc on a une solution, une gamme complète.
Alors cet échange, ce retour, l'initiative vient d'où en fait ?
Alors en fait, le travailleur peut le demander, l'employeur n'est jamais obligé de l'accepter, mais s'il accepte, effectivement, à ce moment-là, ils définissent les conditions, à savoir à partir de quand, est-ce que les conditions sont remplies, depuis combien de temps le travailleur a-t-il déjà bénéficié d'un véhicule de société. Forcément, ce n'est pas quelque chose qui se met en place dans l'immédiat. Quelqu'un qui voudrait avoir un véhicule de société ne pourrait pas choisir entre son véhicule de société et la location. Ici, on parle vraiment d'un échange. Donc, il faut que le véhicule de société ait déjà été attribué pour bénéficier de cette fameuse allocation de mobilité.
Sandrine Néry, tu penses que ça va marcher ?
Moi, je suis plutôt pessimiste sur le sujet. Je pense que oui, ça va peut-être convaincre, mais pas le grand public. Je pense... 80% aujourd'hui de la mobilité se fait encore avec son propre véhicule. Donc je pense que l'abandon du véhicule, non. Après, si c'est pour acheter à titre privé un second véhicule, je pense que les dispositions ne seront pas et les objectifs derrière ne seront pas atteints.
Et d'autant plus que le réseau de Bruxelles, de Liège, de Charleroi est totalement différent, même semblable, mais différent. Et puis, pour très bien avoir un emploi à Charleroi et habiter Spa. Donc, de toute façon, c'est impossible. Enfin, sur le fond, je veux dire, ce ne sera pas toujours possible, quelque part. Ce sera un peu adapté. Et je pense qu'on en reparlera dans quelques mois ou peut-être l'année prochaine, le pourcentage à avoir mordu. Ça risque quand même d'être assez dérisoire. Bon, moi, je ne sais pas. Dernière info ?
Non, si ce n'est qu'on est en porte ouverte aujourd'hui, que tous nos sites sont ouverts ce dimanche avec un rallye d'ancêtres pour les 120 ans de Renault.
Ah ben, on termine la séquence, on prend l'apéritif chez Eric, si t'en penses.
Tout à fait, oui, oui.
Eh bien voilà, mesdames et messieurs, parti, s'il vous plaît.
C'est l'heure de l'apéritif.
C'est l'heure de l'apéritif. Ben voilà, on va aller passer. C'est pas bien loin en plus. Je suppose que c'est sur le site de Buranville.
Ça démarre à Fléron, ça passe par Grivenier, ça se termine à Buranville à 15h30 pour le gâteau.
Et il y a un apéritif à chaque garage.
Tout à fait.
Et c'est pas 4 sites qu'il y a en fait.
Si, Retine également, mais Dacia ne fait pas ses 120 ans, donc malheureusement.
Ah bon, ben voilà.
Il y aura quand même l'apéritif, je rassure.
Je vous souhaite tous et à toutes un excellent dimanche après-midi. Profitez-en, il y a encore quelques... Le baromètre est encore dans le positif, il faut en profiter. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, on va parler plaisir, on va parler économie, on va parler d'économie d'énergie avec des entreprises bien installées depuis de nombreuses années. Ben voilà, sur Maximum, c'est terminé. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. À dimanche prochain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci Christian Kino, Guy Van Den Norgate qui nous présentaient leur séquence. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Petite pause musicale avant d'entamer la prochaine partie du MAC de ce dimanche. Dans quelques minutes, on vous parlera d'une initiative de plusieurs commerçants liégeois qui ont décidé d'ouvrir leur magasin le jeudi soir.